marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous aide à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Simone de Beauvoir en dialogue avec elle-même.
On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. Et en effet, elle représente une partie importante de mon œuvre. Beaucoup de gens m'ont dit, après tout, vous en dites plus long dans vos mémoires que dans votre autobiographie. Du moment qu'on ne peut pas dire absolument tout, d'une certaine manière, on fausse la réalité. Il vaudrait mieux attendre et faire ça quand vous en serez beaucoup plus détaché, beaucoup plus tard. Mais ce que je voulais dire, je voulais que ce soit encore pour moi une expérience tout à fait vivante, et les souvenirs qu'on écrit à 70 ou à 75 ans, ça peut être charmant, mais ça n'a pas du tout le même caractère, malgré tout aigu, que des souvenirs qu'on prend presque encore sur le vif.
En 1938, Sartre lui avait lancé « Mais pourquoi ne vous mettez-vous pas en personne dans ce que vous écrivez ?» Sartre, le compagnon, le frère, l'égal, le mentor surtout. Son injonction méritait d'être écoutée. Elle fera son chemin progressivement. L'essai philosophique, Le deuxième sexe, 1949, réussit en effet à Simone de Beauvoir. Ses romans, Les mandarins, un concours, 1954, connaissent le succès. Sa personne y apparaît, mais il faut attendre Les mémoires d'une jeune fille rangée, 1958, pour qu'elle se jette toute crue dans un livre. Comme elle est femme à déboulonner les genres, elle ne conçoit pas les mémoires à la façon de Chateaubriand, par exemple. Elle tient à rester dans le vif, au risque de ne pas savoir si, en avançant dans le récit, elle s'éloigne du vrai ou bien le rejoint. C'est difficile de garder la juste distance quand on est soi-même dans le mouvement. Chateaubriand avait l'avantage d'écrire assis dans son cercueil. « Comment suis-je devenue femme? De quoi est faite la femme faite que je suis devenue ?» Avec 1000 difficultés qu'elle avouait volontiers, Simone de Beauvoir produisit un cycle liant les segments de sa vie, la force de l'âge, la force des choses. Il s'acheva après la mort de Sartre par la cérémonie des adieux. C'était une autobiographie et en même temps une biographie du nous. Dans l'œuvre de Simone de Beauvoir, elle taille une voie royale, consacrée en tout cas comme telle par la Pléiade, qui vient de publier 2 volumes sous le titre « Mémoire ».
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec toute une équipe, 2 responsables, Eliane Lecarme-Tabonne et vous, Jean-Louis Janel, bonjour.
Bonjour.
Qui est un grand amateur de l'écriture de soi.
Tout à fait.
Les métamorphoses par les mémoires, la métamorphose des mémoires, André Malraux. Alors vous êtes mis à Simone de Beauvoir et vous poussez le mimétisme jusqu'à habiter à Rouen où vous enseignez, comme elle a habité à Rouen où elle a enseigné.
Tout à fait, au lycée Jeanne d'Arc, mais je n'y habite pas, j'y enseigne simplement, sur ses traces.
Alors, c'est une voie royale, ça va être notre thème, que l'autobiographie, et je vous propose qu'on fasse simplement 2 stations. Enfin, je ne sais pas si le mot station, pour une femme qui est tout le temps en mouvement, c'est exact. Zaza, d'abord, l'ami de jeunesse, personnage structurel, et puis tout à l'heure, Nelson Algren, l'écrivain amant de Chicago. Alors commençons par ce personnage structurel qui s'appelle Zaza. Il faudrait que vous rappeliez à Audrey Ripouille, notre réalisatrice qui ne veut pas croire que ça existait, qu'il y avait un court désir.
Un court désir, oui.
Très boutonné en même temps à Paris.
Désir en réalité, mais qui est devenu désir du nom de sa fondatrice, effectivement. Une demoiselle, bien sûr. Qui était un lieu d'éducation catholique extrêmement fermé, boutonné, où les demoiselles serraient les jeunes filles, effectivement, mais où Beauvoir s'est épanoui d'une certaine manière.
Les demoiselles serraient les jeunes filles, serraient les genoux. Oui.
Moralement.
Attendez, 100 ans. Oui. Et Simone de Beauvoir, qui appartient à la bourgeoisie déclassée par la ruine consécutive de la guerre de 14, y fréquente une amie qui se représentait comme une demoiselle Mabille dans les mémoires, mais qui s'appelait de son vrai nom Elisabeth Lacoing, Elisabeth Zaza.
Alors, à 10 ans, elle circulait seule dans les rues. Au court désir, elle n'adopta jamais mes manières guindées. Elle parlait à ses demoiselles d'un ton poli, mais désinvolte, presque d'égal à égal. Nous nous sommes mis à parler, à raconter, à commenter. Les mots se précipitaient sur mes lèvres. Dans un éblouissement de joie, je me suis dit, c'est elle qui me manquait. Conventions, routines, clichés volèrent en éclats, et je fus submergé par une émotion qui n'était prévue dans aucun code. Je ne concevais rien de mieux au monde que d'être moi-même et d'aimer Zaza.
Zaza, chez qui à gagne-pain dans les Landes, elle passe de longues vacances avec, dit-elle, une nuit inoubliable. Mais attendez, en tout bien, tout honneur, une nuit de confidence, parce que c'est l'amie confidente.
Tout à fait. En réalité, au départ, Beauvoir n'appartient pas à une famille déclassée. Ça s'est fait progressivement d'une certaine manière. Et lorsqu'elles se rencontrent, elles appartiennent à peu près au même milieu. Elles se rencontrent en octobre 1927, toutes les deux, au cours des Irs. Et Beauvoir est tout de suite frappée. Beauvoir, qui est une jeune fille très timide, très soumise à sa famille, et qui n'a aucune idée de révolte, est très étonnée par l'espèce de liberté qu'a Zaza. Une liberté, en réalité, elle s'en apercevra avec le temps, qui est toute limitée. Mais elle a une espèce d'impertinence, celle qu'un garçon pourrait avoir, tout en étant en réalité aussi une jeune fille extrêmement rangée. Mais cette espèce de liberté va lui plaire, cet esprit qui est celui très vif de Zaza et qui tranche avec les jeunes filles de son milieu. Elle appartient à un milieu très catholique, de militants, très bonne famille. Le père est ingénieur au chemin de fer, 9 enfants, et avec un milieu qui est pour un certain côté assez extrême droite, Action française, et ça va devenir l'amie absolue, celle qu'elle rêverait d'être, celle qui la fascine, celle dont l'absence rend le monde totalement absurde d'une certaine manière.
Quand Simone de Beauvoir s'apprête à devenir une surdiplômée et qu'elle entre à la fac, Zaza reste quand même une jeune fille chaperonnée qui va d'ailleurs se retrouver peu à peu dans un étau de contradictions.
Oui, elle est torturée. Elle est à la fois... Beauvoir explique très bien l'intelligence de sa mère qui la laisse libre sur des détails et en réalité très très sous son emprise sur le point fondamental qui est celui du mariage. Il faut bien marier cette jeune fille comme les autres, comme ses sœurs, et à son tour puisqu'on le fait dans l'ordre. Et ça va être... Sa mère a une relation qui est d'une extrême proximité avec elle, une forme de chantage permanent.
Mais Merleau-Ponty, ce serait un fiancé pas mal, le futur grand philosophe.
C'est compliqué. Alors la raison, puisqu'elle rencontre donc, elle va tomber amoureuse de Merleau-Ponty, effectivement, qui est un ami qui n'est pas désigné comme tel, qui est appelé Pradel dans les mémoires d'une fille rangée. La relation ne va pas se faire. L'amour est là, effectivement, mais Merleau-Ponty hésite, lui-même est très proche de sa mère, ne sait pas si un mariage serait le bienvenu. Les choses s'emballent en réalité. Merleau-Ponty recule un peu, est encore très jeune, et Zaza va être victime des contradictions qu'elle subit, à la fois d'un désir d'émancipation. Elle ne peut pas faire les mêmes études que Beauvoir. Beauvoir les fait, elle est attirée par cette espèce de liberté que Beauvoir trouve dans les études, et en même temps, le désir de ne pas rompre avec sa mère, de satisfaire à cette espèce de désir de mariage arrangé. Dans la mère, le mariage ne peut être qu'arrangé d'une certaine manière. Merleau-Ponty lui serait imposé par l'amour, ce qui n'est pas concevable.
Alors est-elle morte de se retrouver dans ce nœud? Est-elle morte d'une encéphalite qui a été diagnostiquée? Mais en tout cas, elle disparaît à même pas 22 ans.
La fièvre ne tomba pas. Sa mère eut le droit de passer la dernière nuit près d'elle. Zaza la reconnut et sut qu'elle mourait. « N'ayez pas de chagrin, maman chérie, dit-elle. Dans toutes les familles, il y a du déchet, c'est moi le déchet. » Quand je la revis dans la chapelle de la clinique, elle était couchée au milieu d'un parterre de cierges et de fleurs. Ses cheveux avaient poussé, ils tombaient en mèches raides autour d'un visage jaune et si maigre que j'y retrouvais à peine ses traits. Les mains aux longues griffes pâles, croisées sur le crucifix, semblaient friables comme celles d'une très vieille momie. Madame Mabille sanglotait. « Nous n'avons été que les instruments entre les mains de Dieu, lui dit Monsieur Mabille. » Les médecins parlèrent de méningite, d'encéphalite, on ne sut rien de précis. S'agissait-il d'une maladie contagieuse, d'un accident, ou Zaza avait-elle succombé à un excès de fatigue et d'angoisse?
Souvent la nuit, elle m'est apparue, toute jaune, sous une capeline rose, et elle me regardait avec reproche. Ensemble, nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait. J'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort.
Cette phrase, vous allez y revenir, Jean-Louis Janel, mais retenons que Zaza, elle a suscité des culpabilités. Elle-même se sentait coupable. La famille s'est sentie coupable, surtout quand elle a viré dans les générations suivantes à gauche. Merleau-Ponty a dit, j'ai pas su retenir Zaza, j'étais un enfant. Simone de Beauvoir commençait à se livrer à son amour avec Sartre, elle n'était pas suffisamment présente, elle se sentait coupable. Et le fantôme de Zaza hantait ses nuits. Au fond, il n'y a que deux personnes qui ont compté pour moi, elle dit un jour, Zaza et Sartre. Alors comment elle fait du fantôme de Zaza un personnage littéraire, par quelles étapes?
Alors Zaza meurt le 25 novembre 1929, effectivement, et va susciter une culpabilité extraordinaire. Beauvoir va venir à l'écriture d'une certaine manière par le désir, un désir qu'il habitait depuis le départ, hein, et qu'elle partageait avec Zaza, qui elle-même avait eu des projets de romans, aurait voulu écrire. Elle va venir à l'écriture par le désir de transposer dans la fiction, afin de dénoncer ce qui est arrivé, l'histoire de Zaza. Elle va faire plusieurs tentatives. Pour elle, c'est un crime spiritualiste. Et on l'entend très bien dans l'extrait magnifique. La phrase du père, qui est d'un cynisme terrible, est une forme de dénégation. D'une certaine manière, nous sommes dans la main de Dieu. C'est une manière de nier la responsabilité, la culpabilité qu'ils avaient fait peser sur leur fille en tant que couple. Elle va le faire continuellement et à chaque fois ça échouera un tout petit peu pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas notamment à restituer le milieu, la complexité des déterminismes dans lesquels Zaza était prise. Et c'est en abandonnant les tentatives de transposition fictionnelle, il y a notamment Carbone l'a bien montré.
Des personnages
de roman, tout à fait.
Personnages de roman.
Elle imaginait sous différents noms, de différentes manières d'ailleurs, parfois en imaginant leur relation à elle, parfois même en avouant une espèce de rivalité qui a pu y avoir entre elles, puisque la culpabilité de Beauvoir, elle vient notamment du fait que Zaza meurt au moment où elle-même est en train de nouer la relation qui va durer jusqu'à la fin de sa vie avec Sartre. Donc elle est moins présente. On le voit très bien d'ailleurs dans les lettres que Zaza envoie à cette époque et qui ont été publié depuis à son amie, elle lui reproche une certaine distance, une absence au moment où elle aurait le plus besoin d'elle. Mais par ailleurs, bien sûr, Madame Lacoin, de son vrai nom, interdisait les relations entre Beauvoir.
Alors, comment le fantôme s'assoit-il? Et est-il dompté?
Oui, il
par
est.
Les mémoires.
Et ça va être par les mémoires, par l'écriture des mémoires, où là, enfin, elle sent qu'elle tient son sujet, qu'elle réussit à rendre justice à Zaza. Et c'est vraiment cette façon de payer une dette qui va faire du texte quelque chose de si important. Vous savez, c'est assez étonnant parce que il y a deux personnages, et vous l'avez dit, il y a deux manières de terminer cette autobiographie qui se termine à peu près donc en 1929, au moment où elle vient de passer l'agrégation et enfin elle a conquis sa liberté, elle a réussi à se détacher de son milieu alors que Zaza, elle, va être victime de ce milieu. Il y a deux personnages, c'est Sartre et Beauvoir, Sartre et Zaza. Sartre va rester assez flou finalement, assez impersonnel dans les mémoires d'une fille rangée. Il ne va prendre toute sa forme que dans la force de l'âge et la force des choses. Ce n'est pas la relation avec Sartre qui clôt cette libération. C'est la justice qui est rendue à Zaza, la peinture de la mort à laquelle elle était conduite, et tout se termine sur ces phrases que nous avons entendues.
Alors, cette phrase que vous pouvez répéter, parce que la dernière phrase, elle est sujette à double, triple interprétation.
Tout à fait, elle se sent victime dans cette phrase.
Et elle dit qu'elle a payé sa liberté.
Elle a payé toujours sa liberté de la mort de Zaza. Effectivement, cette dernière phrase, elle est assez fascinante parce que, d'une certaine manière, elle sent que la liberté qui a été la sienne, c'est-à-dire la possibilité de faire des études, de se détacher de son milieu, elle en a goûté toute l'importance en voyant l'avenir, le destin absolument martyrisant, terrible, de son ami Zaza.
En tout cas, le fantôme ne lui apparaîtra plus la nuit, dira-t-elle, même si elle continuera à en parler beaucoup le jour, par exemple à sa fille adoptive Sylvie Lebon de Beauvoir, qui, elle, à côté de vos deux volumes de mémoire, publie un album Simone de Beauvoir. Comment trouver la bonne distance?
Dans le premier volume des mémoires, j'ai assez facilement trouvé une certaine distance à mon enfance. J'ai eu beaucoup plus de mal pour trouver une certaine distance avec ma jeunesse. Est-ce que j'allais être complètement d'accord avec elle ou la juger avec une espèce d'ironie détachée? Trop d'ironie, ce n'est pas bien, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que je me moquerais de la jeune fille que j'ai été, même si j'ai été stupide? Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas à prendre des supériorités, sauf parce qu'on est plus âgé sur ce qu'on a été quand on était jeune. Trop de complaisance, c'est également ridicule, parce qu'il n'y a pas à penser que tout ce qui vous est venu dans la tête était important et avait de la valeur. Donc il faut trouver une distance, qu'il soit à la fois de la sympathie et tout de même de la critique.
1929, la mort de Zaza, et puis le personnage de Sartre qui passe de plus en plus au premier plan, surtout quand la célébrité vient au couple, à l'époque de Saint-Germain-des-Prés, la chanson de Sartre destinée à Juliette Gréco.
Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux sont venus des dames comme il faut, avec de beaux affutillons. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé de son haut. La tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nombreux sont les couples qui concluent le même pacte à peu près que Sartre et moi. Maintenir à travers des écarts une certaine fidélité. Si les deux alliés ne se permettent que des passades sexuelles, il n'y a pas de difficulté. Mais aussi la liberté qu'ils concèdent ne mérite-t-elle pas son nom? Nous avions été, Sartre et moi, plus ambitieux. Nous avions étourdiment esquivé. Comment le tiers s'accommoderait-il de notre arrangement?
Il y avait sûrement quelque chose de très égoïste de la part de Sartre comme de la mienne, de faire ce pacte et d'engager des tierces personnes dans ces aventures. Nous les engagions.
La Pléiade publie sous l'égide d'Eliane Le Carme-Tabonne et de Jean-Louis Janel, ici présent, deux volumes de mémoire, le cycle autobiographique de Simone de Beauvoir. Elle est assez sincère quand elle dit qu'il y avait de l'égoïsme dans la façon d'interpréter ce fameux pacte entre Sartre et elle. Juste une question, Jean-Louis Janel. Au fond, c'est elle qui croyait au couple plus que lui, non? Elle était nourrie de Paul Claudel.
Dans sa jeunesse. Je ne suis pas sûr que ce soit elle qui y tienne plus que Sartre, peut-être au début. En tout cas, et c'est elle qui l'a géré d'une certaine manière. Sartre avait toujours beaucoup de liaisons, beaucoup de femmes, les choses s'entremêlaient, faisaient des nœuds terribles, et Beauvoir était toujours préposé finalement à la gestion de ses multiples relations. Mais je crois que Sartre tenait tout autant à Beauvoir, et avait besoin tout autant de Beauvoir qu'elle. Et de ce point de vue, elle a joué, elle a compté à peu près à égalité. Dans sa vie.
Le mot « tierce personne », bon, là on va parler, deuxième volet, après Zaza, de Nelson Algren. On va parler d'un protagoniste, au sens premier du mot, protagoniste, un acteur d'importance. Nous sommes en 1947, Simone de Beauvoir est en voyage, c'est déjà quelqu'un de très connu, avec beaucoup d'amis aux États-Unis.
Les amis de New York m'ont donné deux adresses, un écrivain et une vieille dame. Pour goûter aux nuits de Chicago, l'écrivain me semble préférable. Le chauffeur a désigné un mur de briques auquel s'accrochait un balcon de bois. C'est ici. Je frappai et je vis apparaître un homme assez jeune, assez grand, au buste raidi par un blouson de cuir. Algren m'examina avec surprise. Un poil noir ronflait au milieu d'une cuisine jaune. Le linoléum était jonché de vieux journaux. Il désigna les papiers d'un geste vague. Je faisais de l'ordre. Algren m'emmena dîner dans un restaurant italien et tout en mangeant une pizza, je me demandais pourquoi je me sentais si confortable près de lui. Nous étions seuls dans la limousine qui nous emportait vers le centre de la ville. Déjà, il me serrait contre lui. Un carcan de chair emprisonnait mes lèvres. Une langue fouillait ma bouche et mon corps se levait d'entre les morts. J'entrais dans le bar en titubant. Il y avait une grande glace à côté de la porte et ensemble nous avons souri à notre reflet. Ma tête arrivait juste à la hauteur de son épaule. Nous avions l'air heureux et jeunes. Et je dis gaiement, quel beau couple.
Vous êtes la seule personne que j'aime, comme je suis, sans escroquerie. Avec du néant, des étourderies, mais comme nous voulons qu'on soit dans notre morale. Avec conscience de tout ça et acceptation. C'est sûrement par vous que je serai sauvé. Nous autres deux, c'est bien. Voilà ce que je pense.
L'émission regrettée de Bernard Rapp avec pour dire Simone de Beauvoir, Dominique Raymond. Alors Nelson, coup de foudre, oui, mais alors c'est qui ce Nelson? On le connaît de mieux en mieux. Les éditions de Bartilla ont publié il y a un peu Chicago, le ciel et l'enfer, ouais. Parce que c'est un écrivain, j'allais dire, écrivain. Ouais. Prolétarien, enfin au sens français du mot. Il est dans un quartier poisseux, ouais. Il va dans les tripots, dans les salles de boxe, le jeu, l'alcool, ouais. Tout ça, il connaît. Hein.
C'est un écrivain qui s'identifie à sa ville, à Chicago, effectivement, qu'il connaît sur le bout des doigts, avec laquelle il fait corps, et qui, de ce point de vue, et une grande partie du malentendu est déterminée par ça, qui n'aurait jamais pu quitter cette ville, qui n'aurait jamais pu écrire ailleurs. Sartre et Beauvoir sont autant liés à Paris que lui, il est à Chicago. Et le malentendu ne pouvait être que profond, puisque tout reposait sur cette logique du pacte du côté de Beauvoir. Et d'ailleurs, au même moment, elle-même se sentait assez mise en concurrence à la même époque, puisqu'elle le rencontre, on est en février 47, et la relation, ce que l'on vient d'entendre, débute en mai, à Chicago, en mai 1947, à la même époque. Sartre a une relation qui compte énormément avec Dolores Vanetti, dont elle ne parle pas, enfin, dont elle parle très peu sans donner son nom et dans les mémoires, et qui joue un rôle à représenter une véritable menace à ce moment-là dans sa vie.
Mais je voudrais que vous insistiez sur un autre aspect de la relation entre l'un et l'autre, qui est une relation physique, de dépendance mutuelle, mais quelle est la relation politique? Parce que Simone de Beauvoir, je sais, elle habitait des chambres d'hôtel misérables pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais enfin...
Oui, ils ont un rôle.
Voilà. Tandis que lui, c'est un écrivain du peuple. Alors peut-être partage-t-il les mêmes convictions au moment de la guerre froide, au moment de la guerre de Corée, et encore c'est à voir, mais les origines de ses convictions ne sont pas semblables.
Non, pas du tout. Et de toute façon, les milieux ne sont pas les mêmes. Elle vient tout de même d'un milieu bourgeois. Et leurs engagements sont très politiques, sont très intellectuels en réalité. Ce qui n'est pas du tout le cas de Nelson Algren, qui est un écrivain de gauche, bien sûr, mais qui n'a pas du tout des engagements de même manière.
Lui, c'est le bitume qui fond, c'est le trottoir défoncé.
Il a un rapport à l'écriture qui n'a strictement rien à voir avec les engagements très politiques, qui sont ceux de Sartre et Beauvoir.
C'est pas mal l'écriture de Nelson Algren. Non, je voulais vous faire dire que parfois Chicago... l'écriture de Simone de Beauvoir, comme on lit dans les critiques qui ont été publiées après votre publication, est plate ou abstraite, tandis que l'écriture de
Nelson Algren est très très ancrée, effectivement, et très vivante. Oui, c'est vrai. Ceci dit, tous les deux se sont influencés l'un l'autre d'une certaine manière. Elle a traduit l'un de ses livres. Alors, au départ, elle a traduit une nouvelle, et puis ensuite, elle avait confié à un ami guyanais la traduction de Never Come Morning, et lui-même n'y arrivant pas, c'est elle qui l'a traduit avec Sartre. Donc elle connaît son écriture de l'intérieur d'une certaine manière, et lui aussi a pas mal changé, a pas mal évolué sous l'influence de Beauvoir et de ce qu'il leur apprenait, de ce qu'il lui apprenait d'un point de vue politique notamment. Il lui permet de sortir de toutes les stéréotypes qui pouvaient être ceux du milieu américain dans lequel il vivait. Donc ils se sont influencés quand même.
Puis il y a une supériorité d'Algren, c'est l'humour. Quand il a reçu cette lettre, nous sommes en 1950, elle vient de la part de l'auteur du Deuxième Sexe, qui a connu en 49 un grand succès. Nelson Algren, la voyant se peindre en épouse arabe, je mets des guillemets, c'est elle qui le dit, a dû sourire.
Samedi 14 janvier 1950. Nelson, mon amour, cet été je serai dans vos bras. Est-ce au bord de l'eau, sur une jolie plage? Fera-t-il torride? Parlez-moi un peu de cet endroit qui sera notre endroit pendant des mois. Oh Nelson, je serai gentil, je serai sage. Vous verrez, je laverai le plancher, je cuisinerai tous les repas. J'écrirai votre livre en même temps que le mien. Je ferai l'amour avec vous 10 fois par nuit et autant dans la journée, même si ça doit légèrement me fatiguer. Toute l'année, Algren m'avait écrit des lettres gaies et tendres, et soudain il me disait qu'il ne m'aimait plus. Dans la petite maison de Vabandia, l'étouffante chaleur et la présence d'Algren m'écrasaient. Je sortais... Je ne savais littéralement pas que faire de moi.
La lettre est numéro 1 est de 50, la lettre numéro 2 de 51. C'est toujours la même petite maison qu'a achetée Algren sur le bord du lac Michigan, mais le climat n'est plus le même.
Oui, il y a eu un malentendu. Beauvoir aurait voulu pouvoir continuer cette relation en passant tout l'été avec Algren. Et puis, exactement d'ailleurs, la manière dont fonctionnait la famille. Sartre avait cette habitude de diviser les choses et Beauvoir faisait de la même manière. Algren a demandé, lui, de son côté, plusieurs fois à Beauvoir de l'épouser. Il ne comprenait pas qu'il y ait la possibilité d'une relation où il aurait une part de la vie de Beauvoir et pas le reste. Donc, il y a eu un malentendu qui s'est amplifié. Ce qu'il faut voir, alors, cette lettre que vous avez compte bien entendre, elle est, évidemment, elle a beaucoup ferré les féministes. Où elle a choqué les féministes en tout cas, puisque Beauvoir s'y décrivait en petite femme arabe, etc. Et ce qu'il voit, c'est dans un cadre intime, de toute façon. La relation est très à distance, donc elle a besoin de nouer une relation qui soit comme ça, physique, et qui aille dans le sens de ce que Algren attendait, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même un peu machiste. Algren est quelqu'un, on le voit, lorsqu'ils se sont opposés ensuite, ou lorsqu'en tout cas lui a voulu rompre avec elle, et a été mécontent des portraits qu'elle avait donnés de lui dans ses textes, ses réactions sont très virulente, voire assez misogyne quand même.
Alors, les portraits qu'elle donne de lui dans ses textes, ne perdons pas le fil, Jean-Louis Janel, même exercice que pour Zaza, comment ça se métabolise.
Elle lui donne une place énorme. Elle lui donne une grande place. Il faut voir que nous avons trois Algren, d'une certaine manière. Il y a la première Algren, c'est une transposition sous le nom de Brogan dans Les Mandarins, qui obtiennent le prix Goncourt en 1954, où cet amour américain joue un rôle essentiel. Donc on le connaît déjà sous une forme fictionnelle. Ensuite, il y a les mémoires. Elle va raconter dans les mémoires cette relation et la défictionnaliser en quelque sorte. Et les lecteurs, évidemment, feront le va-et-vient. Ce seront dans les mémoires la force des choses. Algren avait été mécontent de la traduction en américain des Mandarins. Il l'est encore plus. Et là, la relation sera interrompue de son côté avec la publication, la traduction de la force des choses. Mais il y a un troisième Algren qui est celui des lettres. Alors, on ne connaît pas les lettres d'Algren à Beauvoir, mais on connaît. Elles sont extraordinaires. Les lettres de Beauvoir à Algren, elles sont d'une puissance d'écriture. On y voit tout le milieu littéraire dans lequel baignent Sartre et Beauvoir à ce moment-là. C'est assez extraordinaire. Et les lecteurs aujourd'hui ont l'habitude de faire le va-et-vient entre ces trois types d'identification d'Algren, ce qui lui donne une puissance extraordinaire. Mais ce qu'il faut voir, c'est que d'autres hommes ont compté dans la vie de Beauvoir. Notamment Bost, le petit Bost.
Jacques-Laurent Bost.
Jacques-Laurent Bost, dont elle n'a pas pu parler parce qu'il avait liaison, à ce moment-là, il était marié à Olga, leur amie très proche, et que Olga n'aurait pas supporté la révélation de cette liaison dont elle ignorait, alors, vrai ou pas, je ne sais pas, elle était censée ignorer en tout cas tout. Et puis, il y a surtout Lanzmann, dont Beauvoir parle un tout petit peu, mais auquel elle ne donne pas une place énorme, alors qu'ils ont une relation très suivie, entre 52 et 59, ils ont vécu l'un avec l'autre, conjugalement, d'une certaine manière, ce qu'elle n'a pas fait avec Sartre lui-même.
Bon, si vous voulez bien, on ne doit pas poser la question de la correspondance de Lanzmann et de non. Beauvoir. Mais je voulais juste vous poser une dernière interrogation. Sylvie Lebon de Beauvoir dit elle aurait voulu aller encore plus loin dans la recherche de la vérité, entre guillemets, de la sincérité, entre guillemets. Enfin, elle passe au filtre de l'intelligence, tous ces mots un peu convenus. Et raconter davantage sur la sexualité.
Oui, c'est vrai, elle l'a beaucoup dit. Elle a beaucoup dit, oui, tout à fait. Et elle, Beauvoir a toujours eu elle a eu une enfance qui est extrêmement traditionnelle, avec une espèce de honte du corps qui lui est toujours un tout petit peu restée. Et Beauvoir avait conscience que, contrairement à des écrivains dont elle était proche, je vais être le Duc en premier, ou Christiane Rochefort après, elle parlait très peu de la sexualité et d'une certaine manière assez mal. Alors, ça dépend des passages, et on le voit dans les lettres qu'elle n'était pas si prude que ça, mais en tout cas, elle a conscience que dans son œuvre littéraire, c'est une espèce de manque. Elle aurait voulu parler à la fin, effectivement, notamment de ses amours avec des femmes, de cette dimension, d'une forme de bisexualité chez elle. Ce qu'elle n'a pas fait, il était trop tard, d'une certaine manière. Elle a respecté une espèce de prudence, de respect qui lui était demandé par ses compagnes aussi.
Alors, j'aime bien quand elle dit certains me considèrent comme une dame patronesse et d'autres comme une dévergondée, mais il y a des dames patronesses vicelardes et des dévergondées cérébrales. Donc les deux volumes de mémoire dans la bibliothèque de la Pléiade de Simone de Beauvoir viennent de paraître. L'émission a été préparée par Elinka Negulesco avec à la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Ronan Maé. Et chez vous, Mathieu Vidard.
Oui Jean, dans un instant, dans la tête au carré, le jour où l'homme a inventé la guerre avec l'archéologue Anne Loerf.
Très bien, on vous retrouve donc dans peu d'instants.
A tout de suite.